l'Académie, elle incarne pour les artistes un lieu où l'on peut se libérer des tutelles du marché, des tutelles de l'atelier, des tutelles de la corporation des peintres. Les peintres qui ont le privilège de faire partie de l'Académie royale sont protégés par le roi. Et ce sont les peintres qui ont réclamé au roi d'être protégés par lui. C'est pas le roi qui veut chercher les peintres, c'est le contraire. Et donc cette institution, c'est un lieu où les artistes peuvent sortir des questions d'atelier, des questions de recettes de travail, et pouvoir se réunir pour échanger, pour dialoguer, pour construire une vision théorique et intellectuelle de leur art. Donc c'est un élément très important pour Ranf de rejoindre cette institution, et peut-être pour lui qui est portraitiste, un jour avoir le privilège de peindre le portrait du roi. Il rejoint donc l'institution, il est reçu en 1703 sur la présentation de deux morceaux de réception, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire deux chefs-d'œuvre qui doivent attester de son talent de peintre, qui sont les portraits qu'on lui a commandés de deux aînés, de deux membres de l'Académie, deux aînés, à savoir d'une part ici Nicolas de Platemontagne, un artiste, vous voyez, qui est né en 1630, donc c'est déjà un vieil homme de 73 ans en ce temps-là, et puis d'autre part, François Verdier, un artiste plus jeune d'une génération. Donc l'un était un élève de Philippe de Champaigne, pour mettre les choses plus au clair, et François Verdier est un collaborateur de Charles Lebrun dans les chantiers du château de Versailles. Vous voyez ce qui est très intéressant, alors ici vous voyez déjà que l'artiste montre pleinement son talent. On retrouve de nombreux éléments caractéristiques qu'on a pu identifier dans la salle précédente. Ce qui se lit beaucoup d'un point de vue esthétique et du point de vue du goût dans ces tableaux, c'est une très forte influence qui est décisive à cette époque-là de la peinture nordique, et notamment de l'art de Rembrandt, avec, vous voyez, ce goût pour ses couleurs chaudes, pour ses fonds abstraits, bruns, mais bien sûr tout cela est raffiné à la manière française, et plus élégant et plus délicat. Ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu de balancement que l'artiste a voulu sans doute suggérer, un balancement, un jeu dialectique entre d'une part un homme du XVIIe siècle qui est représenté dans une pose très autoritaire, dans un costume très élégant, avec une cravate parfaitement nouée, une très belle perruque, et vous voyez encore une fois cette draperie dont je vous parlais, une draperie qui est tout à fait artificielle, personne ne porte ces draperies, ce sont des artifices stylistiques pour donner une ampleur et une majesté au personnage. Et puis face à cet homme du XVIIe siècle finissant, eh bien on retrouve un homme qui regarde davantage vers le XVIIIe siècle. Vous voyez qu'il est représenté sans cravate, sans perruque, parce qu'il porte ce bonnet d'intérieur que ces hommes tondus à cette époque pour porter la cravate enfilaient quand ils rentraient chez eux. Et donc vous voyez dans une pose décontractée, de trois quarts, dans un jeu de contrapposto, avec cette très belle palette qui lui sert d'attribut, cette palette et ces pinceaux qui lui servent d'attribut de peintre, mais en même temps avec cette volonté, cette idée d'évoquer non pas seulement le moi social du personnage, mais également l'idée d'évoquer son moi intime, comme si le personnage nous invitait dans son intimité, dans son intérieur, et se donnait à voir dans son costume négligé. Et c'est en quelque sorte un grand bouleversement dans l'idée de l'élégance, dans l'idée de l'élégance masculine de cette époque. C'est déjà une sorte de dandysme en fait qui vient se dessiner à cette époque-là et qui va avoir une énorme influence dans la mode au XVIIIe siècle et par la suite au XIXe siècle. Vous voyez que le jeu de dialogue avec Hyacinthe Rigaud est toujours présent en même temps, puisque cette image de François Verdier est assez inspirée de ce portrait de Fontenelle, un grand écrivain de ce temps-là. Ce qui est très frappant aussi, c'est de voir que ce sont précisément les artistes et les écrivains qui se donnent à voir dans cette pose décontractée, dans ces vêtements un peu relâchés et plus intimes, avec cette idée d'appartenir comme à une sorte de cercle différent du reste de la société. Et puis dans cette salle, on vous montre aussi deux tableaux très importants, très intéressants, très singuliers. On l'a dit, Rigaud, aussi bien que Ranke, ont eu toute leur carrière entièrement dédiée à l'art du portrait, mais ils ont touché également du bout du doigt à la peinture d'histoire, et notamment à la peinture religieuse. À cette époque, même si le portrait est beaucoup plus lucratif que les autres genres, même si le portrait permet de tutoyer les grands de ce monde, eh bien à l'Académie, on défend le prestige théorique de la peinture d'histoire, de la grande peinture narrative, mythologique ou religieuse. Et pour cette raison, eh bien, nos deux artistes ont voulu absolument être reçus, après être reçus comme portraitistes, ils ont voulu être reçus comme peintres d'histoire. Par exemple, Rigaud, au moment de sa réception, a présenté cette crucifixion que vous voyez là, qui nous a été prêtée par le musée de Perpignan, pour être reconnu comme peintre d'histoire. Eh bien, Ranke, une quinzaine d'années plus tard aussi, à la suite de sa réception, a voulu être reçu comme peintre d'histoire. Finalement, les choses n'ont pas pu se faire parce qu'il était harcelé de commandes hein, dans ce marché très lucratif dont je vous parlais, qui est celui du portrait. Mais on retrouve, ça et là, quelques indices de tableaux d'histoire et cette peinture, cette crucifixion absolument magnifique, qui est une redécouverte très récente. C'est un tableau qui a été acheté en 2017 par le musée de Stockholm, qui nous a prêté exceptionnellement avec son cadre absolument splendide. Eh bien, il nous permet d'imaginer, il nous permet un peu de rêver au peintre d'histoire très raffiné que Jean Ranke aurait pu être. Vous voyez notamment, on reconnaît parfaitement sa touche, sa patte, d'une part dans cette draperie très élégante, très recherchée, et puis dans ce ciel très dramatisé, avec ce rendu très métallique des jeux des contrastes entre l'ombre et la lumière.